Toujours Mariska, je mélange tous les prénoms, Maria Sevenstien, chanteuse hongroise en notre compagnie musicale aujourd'hui dans Remue Ménage sur Ondes Femmes Radio Zone 93.8. Si vous nous rejoignez maintenant pour cette dernière demi-heure d'émission de Remue Ménage, eh bien, nous allons être maintenant en compagnie de Mariska Forest. Mariska Forest qui est une des personnes qui a permis la réalisation de l'exposition Couleurs solidaires qui est montrée en ce moment à l'Université ouvrière de Genève, entrée place des Grottes, dans le cadre de la campagne qu'organise cette année Amnesty International sur le thème « Femmes engagées, femmes en danger ». Exposition qui montre surtout des dessins et des peintures réalisées par des victimes de la guerre et de la répression, des enfants principalement, et des femmes qui expriment d'une certaine façon, par leur peinture et leur dessin, ce qu'ils ont vécu. Et Mariska Forest, qui est avec nous en direct dans notre émission aujourd'hui, eh bien, a été travaillée à nombreuses reprises avec des enfants dans des camps de réfugiés en Slovénie, camps de réfugiés qui réunissent surtout des femmes et des enfants qui ont dû s'exiler de façon forcée de leur Bosnie-Herzégovine, où ils ne pouvaient rester, beaucoup partant avant même que la guerre ne devienne trop horrible et détruit et les menace leur vie. Alors Mariska, on s'est assis lundi soir ensemble devant des peintures réalisées par les enfants que vous avez réunis dans des ateliers de peinture, entre autres dans un camp en particulier près de Ljubljana. Vous pouvez nous situer juste en quelques mots ce camp, comment vous y êtes arrivé, puis ensuite on s'installera devant la peinture ensemble pour tenter de partager l'importance de ces dessins à nos auditrices et auditeurs.
J'ai rencontré, donc je suis allée en Slovénie à la demande de Cause Commune. Et Cause Commune avait pris déjà au préalable un contact avec une association de bénévoles à Ljubljana qui travaillait avec des gens, disons, en difficulté. Avant la guerre, c'était beaucoup avec les Gitans. Puis la guerre est survenue. Ben, ils ont eu très très vite au départ des réfugiés venus de Croatie, puisque la guerre a démarré en Croatie. Puis quand ça s'est calmé en Croatie, les gens sont rentrés chez eux et il y a eu après des réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Et j'ai été donc guidée par une personne de cette association. Au départ, il y avait 5 camps à Ljubljana. Tous étaient situés dans la ville, sauf un qui était en dehors. Les 4 camps dans la ville, ce sont des anciennes casernes que l'armée fédérale a quittées au moment de l'indépendance de la Slovénie. Et le seul camp qui n'est pas une caserne et donc qui se trouve à la périphérie de Ljubljana, ce sont des baraquements en bois. C'est en été, ça peut encore aller. En hiver, moi je l'ai vu en février, c'est parfaitement sinistre. Ça pourrait ressembler à un camp de concentration, je sais pas. Et cette personne m'a demandé de travailler là parce qu'il n'y a personne qui y allait. Il y a un bus, ça met plus d'une heure pour aller du centre de Ljubljana et après, il faut encore marcher 25 minutes. Donc personne ne se déplace, dans ce camp-là.
Alors nous allons bien sûr beaucoup parler du travail que vous avez pu effectuer principalement avec les enfants, mais les rencontres que vous avez aussi faites avec leur mère, puisque comme je disais, c'est surtout des femmes et des enfants qui seront réunis dans ce camp. Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'à l'origine, rien ne vous prédestinait à aller à faire de l'humanitaire. Vous êtes peintre et vous l'avez répété, affirmé, vous n'êtes pas psy par exemple ou délégué du CICR, mais vous avez pensé à un moment donné que c'était possible par la peinture de libérer un petit peu ces enfants de ce lourd fardeau qu'ils portent sur les épaules qu'est la guerre.
D'abord je suis partie avant de partir là-bas, j'ai toujours été persuadée que la peinture pouvait être quelque chose elle est dans ma propre vie fondamentale, c'est le seul lien un peu qui me tient, mais je suis d'accord, je suis peintre, mais je suis aussi femme et je suis aussi citoyenne. Et les choses qui arrivent dans le monde, que ce soit en Bosnie-Herzégovine ou au Rwanda ou au Zaïre, en tant que citoyenne et femme, je ne peux pas les ignorer.
Alors, nous nous installons toutes les deux, mes chères auditrices, fermez vos yeux et essayez de vous imaginer ce que vous avez devant les yeux. On le répète, le mieux, c'est bien sûr d'aller sur place voir l'exposition. Mais nous nous installons devant un tableau réalisé par des petits-enfants.
C'est une peinture acrylique sur toile et c'est un triptyque. Et un triptyque à volet, ça veut dire qu'il peut s'ouvrir et se fermer. Le sujet était tout à fait libre, il y a juste le format qui était imposé. Le centre étant carré.
Immense, peut-être qu'on peut préciser. Hein, c'est grand quand même.
Oui,
comme
fait 1 mètre, le centre fait 1,50 m sur 1,50 m. Donc ouvert, ça fait 3 mètres. Et ce sont des enfants entre 5 et 7 ans. Ça veut dire que pour peindre l'ensemble de la peinture, ils ont dû monter sur une chaise pour arriver au-dessus. Chacun a fait un projet individuel. Là, il n'y avait pas de sujet. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Puis on a repris, on a pris tous les sujets et on a regardé ce qui revenait le plus souvent. On a fait une liste. Alors il y avait la maison entière, la maison cassée. Il y avait peu de personnages, il y avait la guerre et il y avait la chambre. Et puis on a longtemps discuté, je ne connais pas le serbo-croate et je travaillais avec une interprète. On a longtemps discuté de savoir quel était, de tous ces sujets-là, le plus important. Ils ont décidé que c'était la chambre, donc la chambre s'est retrouvée au milieu. Et puis, les deux autres sujets qui étaient aussi importants, qui devaient entourer la chambre, c'était la maison. Alors, à gauche, on a mis la maison entière, la belle maison, et à droite, la maison cassée. Quand on referme le triptyque, il y a le personnage, ils ont choisi d'en dessiner un, mais grand, et de l'autre côté, c'est la guerre. Alors, on revient à l'intérieur, donc au centre, il y a la chambre. À gauche, la maison entière, à droite, la maison cassée. Ça, ce sont des choses que moi, je leur ai proposées. Je leur ai proposé de choisir une dominante de couleur pour que les choses soient plus distinctes. De choisir une dominante de couleur pour la maison entière, à gauche, et la maison cassée, à droite. En disant, voilà, il y a les couleurs froides et les couleurs chaudes. Les couleurs froides, c'est plutôt les verts et les bleus. Et les chauds, c'est les oranges, les rouges et les jaunes.
Et bizarrement, ils ont choisi de mettre la belle maison en vert et bleu et la maison cassée en rouge et jaune.
C'est ça. Et au milieu, ils devaient tenir compte de l'espace de gauche. Donc, ils ont commencé en vert. Et petit à petit, ils sont arrivés vers le rouge, vers la maison en feu. La petite histoire, la partie du milieu qui est la plus grande, ça c'est deux enfants, c'est les deux plus petits. C'est un hasard, mais pour moi c'était important. Eux ont fait la chambre. Là, on a dû avoir aussi beaucoup de discussions, parce qu'au début, ils faisaient une très belle chambre, très vide, avec un beau lit, une seule armoire, une grande table. Et le sujet était leur chambre à vide. Donc moi, plusieurs fois, je suis intervenue en disant non, c'est pas la belle chambre, on n'est pas en train de rêver ici. Ça, c'est l'objet d'un autre sujet. C'est la chambre de vie, on était d'accord au début. Et moi, ce que je vois dans les chambres, c'est plein d'armoires, c'est plein de lits, c'est...
Donc les chambres dans le camp où ils se trouvaient, quand vous dites Vige, c'est le lieu où ils se trouvaient.
Oui, c'est un camp à la périphérie de Ljubljana. Et l'atelier dans lequel on travaillait, c'était la même dimension que les chambres, à savoir environ 3 mètres sur 4. La plupart des enfants, les enfants par exemple qui ont peint ce triptyque, ils vivent à 9 dans une chambre donc de 3 mètres sur 4. Il y a 5 enfants et 3 adultes, les mamans.
Et dans les chambres, il y avait des fleurs, parce qu'eux, ils ont représenté des fleurs dans leur chambre.
Ils ont rajouté des fleurs. J'en ai pas vu beaucoup, des fleurs dans les chambres. Et encore, ils n'ont pas mis beaucoup de lits.
Donc cet immense tableau est une œuvre collective. Ils se sont mis à plusieurs pour la réaliser.
La majorité des peintures qui ont été faites en Slovénie, dans les camps de réfugiés en Slovénie, sont des œuvres collectives. Et moi, j'ai choisi, mais ça, c'est mon travail depuis 15 ans à Bruxelles aussi, c'est de proposer à ces enfants de peindre en grand. À Bruxelles, je le fais depuis 15 ans, parce qu'à l'école, c'est souvent en petit, c'est souvent en magicolor ou au bic. Et je pense qu'en grand, on a d'office un rapport physique. On est obligé de reculer, on peint debout, on n'est pas fermé. Et je pense qu'en plus, pour ces enfants... Je pense que c'est bon pour tous les enfants, mais particulièrement pour ceux-là qui sont encaqués dans des, dans, dans, dans des pièces, là, c'est, on est obligé de bouger, on est obligé de faire grand et on est obligé de discuter. Parce que l'espace est tellement grand qu'il faut faire attention de ne pas renverser le pot. Et donc, c'est tout aussi une discipline à l'intérieur de l'atelier. Ce qui n'est pas vrai quand l'espace est trop petit. Là, c'est très individuel et beaucoup plus intellectuel.
Justement, les deux petits qui ont fait cette chambre au milieu, est-ce que vous vous souvenez comment ils discutaient entre eux ? Moi, je vais faire les lits, moi, je veux me peindre là. Il y a deux personnages qui sont représentés sur le tableau. Les deux ont l'air couchés sur un lit. Ils ont mis des armoires, justement, des fenêtres. Est-ce que vous vous souveniez de leurs arguments, attention, pour dire « moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça » ?
Ça a été d'abord énormément une discussion sur qui va au niveau de l'esquisse. Donc, au début, ils ont commencé à faire, à le dessiner au fusain. Et puis, quand la composition a été faite au fusain, chacun s'est dit bon, moi je m'occupe des armoires, moi je m'occupe des fleurs, moi je m'occupe des personnages. Le fond était commun. Et là, parfois, ils ont été aidés par des plus grands pour faire le mur. Mais chacun était responsable d'un espace. C'est l'intérêt aussi du triptyque, c'est qu'à la fois ça peut être une œuvre personnelle, enfin une œuvre collective. Mais où chacun peut trouver son espace et après on le monte et c'est surtout en plus quand c'est un triptyque à volets donc il se ferme c'est comme si c'était une armoire aussi.
Et la maison cassée par la guerre, par opposition à la maison toute belle, a suscité beaucoup de discussions. Chacun avait ses images qui défilaient dans leur tête.
On a peu parlé de la guerre. Les choses venaient comme ça. Moi, en tout cas, je les provoquais pas. Je leur demandais pas d'où ils venaient, si leur village était entier ou pas. Je me suis d'abord adressée à ces enfants en disant voilà, moi je suis peintre et je viens peindre avec eux. Et puis c'est eux-mêmes au fur et à mesure qu'ils ont parlé. En général, la maison, ça revenait tout le temps. Je crois que c'est dans les 6 mois où j'ai passé là-bas, s'il y a un sujet qui revenait continuellement, c'était la maison, la chambre un peu, mais surtout la maison.
Mariska, les enfants viennent volontiers travailler dans les ateliers de peinture, dans ces camps.
Mais quand je suis arrivée, ça veut dire début 93, ces enfants-là n'avaient plus été à l'école depuis 2 ans. Tous les jours que j'arrivais à ce camp de Vich ou à un autre, j'ai passé mon temps à refuser des enfants.
Et bien évidemment, votre tâche n'était pas de les faire dessiner pour leur faire oublier. On ne vient pas simplement les occuper, en l'occurrence parce qu'ils ne vont pas à l'école. En tout cas, j'imagine que ce n'était pas là votre intention à vous.
Moi, mon travail, en tout cas qu'il soit en Slovénie ou à Bruxelles, n'est pas de type occupationnel. Je tiens trop à la peinture et j'aime trop la peinture pour considérer ça comme un vulgaire passe-temps. Je pense aussi que c'était important pour ces enfants que je fasse ce travail-là depuis très longtemps. J'ai pas commencé à faire de la peinture parce que je me suis retrouvée avec des enfants dans un camp de réfugiés. Ça n'est pas parce qu'ils étaient réfugiés que je faisais de la peinture avec eux. Ça, moi, je crois que c'est fondamental. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas une professionnelle. Je trouvais que ce projet était original dans ce sens-là. C'était d'envoyer des gens qui étaient des professionnels dans différents domaines créatifs. Il y avait d'autres qui faisaient de la musique, d'autres du théâtre, mais pas uniquement avec des réfugiés. Je veux dire, mon travail, ça fait un an que je suis revenue de Slovénie. Mon travail continue.
Bon, mais là, vous vous trouvez avec des enfants qui viennent de vivre une situation particulière. Mais comme on l'a, enfin, lorsque nous étions devant les peintures et comme j'ai pu le voir dans d'autres peintures, les enfants ne représentent pas forcément la guerre dans leurs peintures. Vous me disiez même de façon surprenante, vous avez l'impression que quand ils dessinent un char, et ça arrive quand même parfois dans leurs peintures, c'est plus parce qu'ils l'ont vu à la télévision que parce qu'ils l'ont réellement expérimenté eux-mêmes. Comment tout ça se mélange et comment petit à petit peut-être aussi au cours des conversations que quand ils peignent, ils ont avec vous, les choses se disent malgré tout un petit peu et ressortent.
Comme j'ai dit tout à l'heure, au départ, je n'ai pas parlé. Je parlais pas moi de la guerre. Je ne m'estimais pas passer ce droit-là. J'ai commencé ce travail-là comme je le fais à Bruxelles. La seule différence pour moi, c'était un environnement qui était différent et la langue. Mais à part ça, quand je me retrouvais à l'intérieur avec ces enfants, à l'intérieur de l'atelier avec ces enfants, j'avais l'impression d'être devant les mêmes enfants. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est si j'avais des livres de Tortue Ninja. Ça m'a à la fois effrayée parce que je déteste les livres de Tortue Ninja, mais ça m'a aussi rassurée en me disant « bon, ben ça va, c'est les mêmes... j'étais partie aussi moi-même avec des préjugés en me disant « oh mon Dieu, les pauvres victimes, les malheureux ». Eh bien non, je dirais, les photos que j'ai pu ramener ou les peintures que j'ai vues, elles sont aussi pleines de joie. Je crois aussi que même si ces enfants vivent dans des conditions terribles, je pense que c'est aussi important de rire, de jouer et de travailler avec la couleur.
Dans le cadre de ce travail que vous avez fait avec les enfants, alors que les enfants venaient participer aux ateliers, eh bien, parfois, leur mère apparaissait. Est-ce qu'elles participaient parfois aux ateliers elles-mêmes ou est-ce qu'elles venaient seulement voir leurs enfants travailler? Peut-être, se demandaient ce que leurs enfants allaient faire dans ces ateliers. Quelles ont été vos relations avec les mères dans ce travail-là?
Mais là, c'était aussi, à part la langue, forcément que je ne connais toujours pas d'ailleurs, c'était aussi une chose différente. J'ai choisi de travailler à l'intérieur des camps, même si la majorité des réfugiés en Slovénie vivent, ou c'est des amis ou des connaissances, en dehors des camps. Moi, j'ai choisi de vivre à l'intérieur des camps. Je me suis dit, je préfère aller vers eux, dans leur cadre de vie, que dans la ville un petit peu anonyme. Les femmes voulaient participer, en tout cas voir. Je leur interdisais l'entrée. Parce que je ne sais pas travailler avec les enfants que les mamans sont là. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est commun dans le monde entier. Les enfants sont pleins quand leurs mères sont là. Mais par contre, je me suis mis à la vidéo pour qu'elles puissent quand même voir comment ça se passait à l'intérieur. Et c'est vrai qu'au départ, je pense qu'elles étaient un petit peu inquiètes. Je ne pense pas par rapport à la peinture, mais je pense par rapport au nombre de gens qui défilent dans ces camps. Je crois beaucoup comme touristes. Avec pleine de bonne volonté, mais je pense que dans des conditions comme ça, la bonne volonté ne suffit pas. Et on vient une fois, on vient deux fois, on vient apporter des bonbons, on vient apporter des oranges. Et je crois qu'au départ, elles étaient un peu réticentes. On se disait, ça y est, c'est encore une de plus d'Europe qui vient un petit peu faire de la clash peinture avec mes mômes, et puis après, elle partira. Et j'ai dû revenir plusieurs fois, et c'est quand je suis revenue plusieurs fois qu'elles ont fini par... paraître aussi des alliés, parce que quand on travaille avec des petits, on est obligé d'avoir leur maman comme alliée, parce qu'un enfant de 5 ans, il ne vient pas à l'heure à l'atelier si la maman n'est pas là derrière.
Et vous me disiez lundi soir que, entre autres grâce à une femme médecin, Janina, je crois que vous me l'avez présentée comme ça, qui vous aidait, qui était à vos côtés dans ce travail-là, vous m'avez dit « je lui dois mes plus belles conversations avec les femmes ». C'est entre autres par l'intermédiaire de ce travail aussi?
Oui, Janina était, elle est toujours médecin, mais pour le moment elle ne peut plus professer puisqu'elle était médecin à Sarajevo. Elle a malheureusement dû quitter Sarajevo, comme elle dit, elle l'a quitté pour ses deux enfants adolescents, pour qu'ils puissent poursuivre leurs études et avoir une vie, parce que la vie pour eux était devant elle. Le travail comme médecin à Sarajevo, ça ne manquait pas, évidemment. Et pour un petit peu se sauver, elle m'a dit que si elle ne travaillait pas dans les camps, c'était le canal. C'était ou un peu de solidarité avec les autres femmes, ou alors elle se jetait dans le canal parce que cette vie sans plus pouvoir faire cette profession et en ayant été obligée de quitter son pays, qu'elle ne verra plus jamais, elle, ça l'a un petit peu maintenue, je crois, de parler. Et moi, je l'ai rencontrée en fait dans les allées entre ces cabanes en bois du camp de Vich. Et elle parlait un tout petit peu français qu'elle avait appris à l'école à Sarajevo. Et c'est comme ça qu'elle est devenue interprète et elle a fini par devenir une très très grande amie aussi.
Et bien sûr, j'imagine que quand les mères voient leurs enfants faire des dessins aussi somptueux que ceux que l'on peut admirer à l'Université ouvrière à Genève en ce moment et jusqu'au 25 septembre, les mères sont très fières de leurs enfants. Et quelque part, elles se disent, bon, ben voilà, ça y est, on est peut-être reparti vers un avenir meilleur que celui qu'elles peuvent s'imaginer. Parce que je suppose que quand on est dans un camp comme ça, l'avenir, on ne le voit pas très lumineux.
Pour les femmes, ça c'était effectivement plus triste. D'abord, elles sont un petit peu culpabilisées parce qu'elles se sentent évidemment responsables de la vie qu'elles font mener à leurs enfants. Alors qu'elles l'amènent, ça passe encore. Enfin, c'est dur, mais ça passe encore. Mais la faire vivre à leurs enfants, non. Alors, je crois aussi que le travail que j'ai fait au départ avec les enfants, c'était les femmes, ça s'est poursuivi très facilement. C'était un peu la continuité. Et elles, le fait que je fasse un travail de façon très régulière et aussi très disciplinée. J'étais avec ces enfants, je les dis comme je suis avec les enfants à Bruxelles. Par exemple, s'il y a un atelier, par respect pour l'ensemble du groupe, si on décide que l'atelier va durer 2 heures, on reste 2 heures. Et ça n'est pas un moulin. Et parfois, il y a des enfants qui disaient « Oui, mais nous, on est traumatisés, on est des réfugiés. » Moi, je leur dis « Non, ça ne marche pas. Ce discours-là, vous ne me l'aurez pas. Vous le faites aux autres, aux grands responsables qui viennent. Mais ça, pour moi, c'est des discours qu'on a appris, qu'on vous a appris à répéter. » Janina m'a dit que ces enfants-là, qu'elle connaît évidemment, parce que ce sont des enfants de son pays, sont devenus des mendiants. Et je pense aussi que c'était mon attitude, c'était pas simplement par rapport. La peinture est rien qu'un média. Moi, j'utilise la peinture parce que c'est mon truc. Mais je veux dire, n'importe quel autre. Je pense que là derrière, c'est profondément politique. Je crois aussi que de dire à des enfants que non, moi, je ne te considère pas comme un mendiant. Je ne te considère pas comme un pauvre. Ça veut dire qu'il y a des choses que je leur demande à eux, d'avoir aussi une autre attitude. Entre les petits-enfants aussi, parfois, je leur disais, parfois j'étais choquée de la manière dont ces petits garçons traitaient leur maman. Je le fais à Bruxelles, je ne me suis pas gênée de le faire là-bas, musulman ou pas musulman. Je veux dire, il y a des choses qui ne passent pas. Et quand je suis dans l'atelier, on me respecte aussi en tant que femme. Je veux dire, il y a des limites à la différence.
Malheureusement, le temps file à la vitesse grand V et nous nous étions installés, Mariska Forest et moi-même, devant un autre triptyque, mais cette fois-ci composé de 3 grands tableaux séparés, réalisés par des adolescents. Je crois qu'on va en discuter en direct immédiatement, on ne va pas se repasser le temps qu'on a pris pour s'installer devant ce tableau. Vous irez encore une fois le découvrir vous-même. Mais je crois que ça fait bien le lien avec ce que vous étiez en train de dire maintenant, Mariska. Pour les adolescents les plus âgés, donc, la situation est effectivement dur et difficile dans ces camps. Entre autres, on peut peut-être juste dire que le tableau que vous leur avez proposé de faire avait pour thème hier, aujourd'hui, demain, et que le aujourd'hui et le demain, si vous nous décrivez en quelques mots, on voit bien que dans leur tête, il n'est pas gai et qu'ils ont dans la réalité effectivement des graves problèmes, pas seulement ceux qu'on leur apprend dans leur tête à dire à certains.
Mais aujourd'hui, ils ont décidé de peindre, c'était pour eux le plus important. Donc ils l'ont placé au milieu, ils ont décidé de peindre le camp de Vich, donc c'est-à-dire des baraques en bois avec des allées où il y a quelques petits graviers qui n'empêchent pas les flaques d'eau et qui n'enlèvent pas non plus l'égout ouvert depuis 3 ans et qui pue. À droite, c'était demain.
On peut peut-être juste encore préciser, oui. Parce que ça m'a beaucoup frappé, c'est que ce tableau, il n'y a pas l'ombre d'un habitant, être humain sur ce tableau, alors que je suppose qu'au contraire ça doit grouiller de monde. Mais dans leur représentation, il n'y a que les baraques, les chemins dont vous venez de parler, et c'est tout, c'est vide.
Pour moi, c'est un tableau superbe, mais c'est un travail de peinture extraordinaire, entre autres pour des enfants, des ados qui n'ont jamais tenu un pinceau de leur vie. Mais effectivement, eux ont choisi de dire non. Ils ont dit, nous, on vit dans un endroit sinistre. Alors, comment rendre sinistre? Ça veut dire pas de personne, pas trop de couleurs, c'est énormément de fusains, et pas de lumière. Même s'il y a un petit peu de lumière dans les chambres. Mais ils ont choisi de le faire le plus sinistre possible, le plus réel possible, en fait.
Et le demain n'est pas beaucoup plus lumineux.
Et demain, c'est la couleur dominante dans les rouges. C'est leur Bosnie comme ils pensent ou ils espèrent la retrouver, mais elle est complètement démolie et il y a encore la guerre. Et là, je leur demandais, mais quand même, un jour, ça va se terminer. Alors, eux disent, oui, on a l'espoir que ça se terminera, mais ils disent, on a la guerre à l'intérieur de nous-mêmes. On est blessés. Et je dis, mais j'espère qu'un jour, il va falloir peut-être comprendre, il va falloir pardonner pour aller plus loin. Ils disent, oui, on va pardonner, mais on est blessés. On est blessés à vie. C'est quelque chose de terrible pour un enfant de 15 ans qui dit, moi, je suis déjà presque foutu. Même si ça, et pourtant, sa vie, elle est devant lui.
Mais vous me disiez, vous aussi, Mariska, qu'à votre avis, ces enfants, quelque part, ils étaient déjà perdus, ou presque.
En tout cas, pour les adolescents, oui, ils le sont.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on ne peut pas... c'est en ce sens-là que je trouvais ce projet très particulier. Je crois qu'il y a une aide de première urgence qui est absolument importante, évidemment. On ne peint pas le ventre vide. Mais je pense aussi qu'à un moment, que ce soit à travers la peinture ou d'autres activités, il y a aussi la dignité. Il n'y a pas simplement une couverture et à manger. Je pense aussi qu'on ne peut pas laisser des gens, mais particulièrement des enfants et des adolescents, comme ça, à l'air, sans rien faire. Après, on s'étonne et on les montre du doigt et on dit « mais voilà, ouais, c'est des délinquants et puis ils se droguent ». Vous pouvez mettre n'importe quel enfant, des Genevois ou des Bruxellois, dans les mêmes conditions, vous verrez aussi, un an après, la délinquance et la drogue. Et ce n'est pas parce que c'est des musulmans que ça arrive. Ça, je crois que c'est vraiment, vraiment trop facile. Et moi, je trouve que ça n'est pas... Je n'ai pas vu la guerre, je n'ai pas vu les canons, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça, je trouve que ça, c'est, ça, c'est des blessures de guerre qui sont, à mon avis, peut-être irréparables. Je crois qu'on peut réparer un pied, mais ces blessures-là, non. Et ça, je trouve que dans ce sens-là, la communauté internationale a une très, très lourde responsabilité.
Vous avez choisi, Mariska Forest, de montrer les dessins de ces enfants. Comme vous nous le disiez tout à l'heure, déjà, vous avez fait l'aller-retour entre vos ateliers, atelier de la banane, à Bruxelles, en montrant aux enfants à Bruxelles les dessins des enfants de Slovénie inversement. Ils ont même travaillé, je crois, parfois sur des mêmes thèmes. Mmh. Vous avez même décidé de faire un livre consacré à tous ces ateliers et qui retrace soit les dialogues, les situations qui se sont passées. Pourquoi avoir envie de faire découvrir aux autres ce qui s'est passé dans ces ateliers ? Pourquoi est-ce si important de montrer aux autres ce qui s'est passé dans ces ateliers en quelques mots, hélas ?
Je vais essayer d'aller très très vite. C'est né de la toute première exposition de toutes ces peintures. À côté de ces peintures, il m'avait semblé utile de mettre un petit commentaire très court. Et puis, au fur et à mesure des questions que les gens posaient et des commentaires, je me suis dit, mais il y a des choses à dire. Je ne peux pas... Il y a des choses à dire au-delà de la peinture, à côté de la peinture. Pour moi, ces peintures, elles tiennent seules. Et cette expérience-là, pour moi, en tout cas, elle a fait que je me suis mis à écrire. Je n'avais jamais écrit de ma vie avant.
Alors je vous remercie beaucoup Mariska, on est malheureusement très pressé et en plus on peut malheureusement pas dépasser sur la demi-heure qui suit aujourd'hui exceptionnellement parce que comme Viviane Guenic qui a fait les informels n'est pas là, elle a préenregistré ses nouvelles et d'habitude on peut grignoter sur son temps mais aujourd'hui on ne peut pas le faire, c'est tragique. Alors voilà, je crois qu'on va devoir s'arrêter là, il y avait une très belle histoire que vous auriez pu nous raconter sur le titre que vous avez prévu de donner à votre livre. Vous pouvez quand même juste nous le dire parce que c'est une phrase très belle et peut-être que les gens s'imagineront ce qu'il y a derrière, ma foi, ils le découvriront peut-être avec vous, ils peuvent vous rencontrer à l'exposition. Vous allez encore quelques fois à l'exposition, donc ils peuvent essayer de vous rencontrer là. Quel sera le titre de votre livre ?
C'est un titre qui a été donné par une femme que j'ai rencontrée lors d'un atelier à Bruxelles. Donc là, plus rien à voir avec la Slovénie et les camps. Cette femme devait écrire une histoire en trois étapes minimum. Elle s'est présentée, elle a dit bonjour. Et elle n'arrivait pas à le faire. Et en parlant avec elle, je lui ai demandé pourquoi. C'était évident qu'il y avait une suite à son histoire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas ? Elle m'a dit d'abord qu'elle n'était pas d'ici. Et quand je lui ai demandé d'où elle venait, elle m'a dit « je ne sais pas ». Je lui ai dit « comment ça, tu ne sais pas ?» Elle me dit « non, mon pays ne s'appelle plus ».
Un pays qui ne s'appelle plus. Alors, allez découvrir les dessins des enfants du pays qui ne s'appelle plus, parce qu'ils sont magnifiques, ils sont émouvants, ils ont un contenu magnifique. Enfin, je crois qu'on peut être que très ému devant tous ces dessins. Donc, cette exposition qui a lieu depuis lundi passé et qui dure jusqu'au 25 septembre dans le cadre de la campagne d'Amnesty International sur le thème « Femmes engagées, femmes en danger ». Et puis, nous vous rappelons, Alba, vous nous faites vite pour nous. Donc, jeudi soir, il y a une rencontre avec les femmes, les trois femmes dont nous avons parlé un petit peu aujourd'hui sur le thème.
Sur le thème « La défense des droits humains, quelle clé de lecture au féminin ?»
Voilà, alors c'est jeudi soir, 20h30, à l'Université ouvrière de Genève, place des Grottes. Et nous vous encourageons vivement à venir participer à cette soirée où on attend beaucoup de questions de votre part et d'interactions avec ces femmes. L'exposition, vous pourrez retrouver Mariska Forest. Et puis, nous nous retrouvons ces trois femmes la semaine prochaine dans des témoignages aussi très émouvants qu'elles nous font de ce qui leur est arrivé et surtout de ce qu'elles souhaitent faire maintenant.